sa bonté, sa miséricorde sont toujours au rendez-vous. Dieu ne manquera jamais quelconque rendez-vous. Nous, parfois, on peut rater des rendez-vous, parfois, on peut oublier des engagements, mais Dieu n'oublie aucun des engagements qu'il a pris. Et je crois qu'il est important pour nous de nous exercer à respecter nos engagements, n'est-ce pas ? Parfois, on peut avoir un problème de mémoire, alors on est obligé de noter. Ça vous arrive de devoir noter ? Une fois, deux fois ? Et plus on grandit, plus on devient adulte, plus on a besoin de noter. Alors, heureusement que Dieu a préparé, a prévu nos problèmes de mémoire, en nous donnant la parole de Dieu, où tout est noté. Et c'est à nous d'y plonger les regards pour ne pas oublier. Je vous invite à faire une lecture ensemble dans le livre de Jonas, au chapitre 3, à partir du verset 1. Jonas, chapitre 3, à partir du verset 1. Le texte nous dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. » Alors, Jonas se leva, il alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était devant Dieu une grande ville, de 3 jours de marche. Jonas commença à faire dans la ville une journée de marche. Il criait ces mots, « Encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. » Les gens de Ninive crurent en Dieu, ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit crier ceci dans Ninive, « Par décision du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail, ne goûtent de rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et la violence attachée aux pommes de ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et n'aura pas de regret, et s'il ne reviendra pas de son ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Amen. Nous avons partagé dans les 2 premiers chapitres du livre de Jonas la première parole que Dieu dit à Jonas. Vous vous rappelez, Jonas, chapitre 1, versets 1 à 3, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Alors, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Chapitre 1, nous avons un Jonas qui entend Dieu lui parler. Magnifique! Je repose la question, qui veut entendre Dieu lui parler ? Mais quand on dit qu'on veut entendre Dieu nous parler, il faut aussi que nous soyons prêts à faire ce que Dieu nous demande. Parce que ce que Dieu nous demande, souvent, je ne dis pas toujours, mais très souvent, ne va pas forcément dans le sens que nous on aimerait. Et il n'est pas juste question d'entendre la voix de Dieu. Il est question de si... uniformer, de se conformer à cette parole et d'agir en conséquence. Alors Jonas est un prophète, il entend Dieu lui parler et qui lui dit « Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Alors Jonas, qu'est-ce qu'il fait ? Il se lève et part dans la direction opposée. 2e chapitre, Jonas se retrouve à cause de sa désobéissance alors qu'il s'en est enfui, il est monté sur un bateau en se disant comme ça « Tout va aller bien, Dieu me dit d'aller à droite, je vais à gauche. » Il part à l'opposé, sauf qu'il a oublié ou il a pensé que Dieu ne voit pas forcément tout. Alors, ça serait simple pour nous de juger Jonas en disant ça, si on oubliait toutes les fois où nous, on en a fait de même. N'est-ce pas ? Ça vous est arrivé ? Alors, il y a un peu de Jonas en nous. N'est-ce pas ? Alors, Jonas... n'est pas contre Dieu, n'est pas contre la pensée de Dieu, n'est pas contre la volonté de Dieu. Jonas, il a un problème avec Ninive, parce que Ninive est une ville tellement méchante. Et puisque même Dieu le dit, hein, les péchés qui pèsent sur la ville de Ninive sont montés jusqu'à l'Éternel, donc ce cri est monté, c'est quelque chose d'horrible, a dû entendre de toutes les couleurs, et Jonas s'est dit non, stop, je sais ce que Dieu va faire, il va leur faire grâce, mais là il faut régler le problème à la racine. Vous savez, parfois nous aussi on peut être très déterminés et dire à Dieu non, ma solution elle est meilleure. Seigneur, vas-y, coupe tout. Seigneur, tu rases tout, comme ça on recommence. Mais la pensée de Dieu, elle est souvent différente que la nôtre. Et là, c'est la preuve, c'est que Jonas, il part, il prend un bateau, et pendant qu'il est sur ce bateau, alors qu'il pense faire la croisière s'amuse, c'est que la tempête s'invite. Et les hommes du bateau essayent de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et finalement, ils font un peu un tirage au sort, et le sort tombe sur Jonas. Et ils vont poser la question, Jonas, pourquoi ? Qui tu es ? Qu'est-ce que tu fais ? Et Jonas, il dit, moi, je suis serviteur de l'Éternel. Et je suis en train de fuir ce que Dieu me demande de faire. Waouh, quel beau témoignage. Magnifique. Je pense que les personnes qui étaient sur le bateau, ils ont été très touchés par le témoignage d'obéissance et de foi de Jonas. Alors, ce qui est étonnant, c'est que quand même, Dieu n'a pas agi envers ces hommes autrement qu'en leur montrant la grâce, puisque du moment que Jonas demande d'être jeté du bateau, Dieu calme la tempête, et ces hommes reconnaîtront que l'Éternel est Dieu, et offriront à Dieu des sacrifices. Mais pour Jonas, l'histoire n'est pas terminée, puisqu'il dit la parole de Dieu qu'un gros poisson est venu, l'a avalé et l'a ramené aux profondeurs de la mer. Et là, il va passer quelques jours de réflexion et de méditation, non, profonde, pas seulement à cause de la dimension, mais même de l'état, puisqu'il se retrouve dans le ventre du poisson. Ça doit être magnifique. Je ne sais pas si en sortant de là, il avait envie de goûter des sushis, mais je pense que ça a dû quand même remettre un peu les mécanismes en place, puisque le chapitre 3, il nous dit « La parole fut adressée à Jonas une seconde fois, et le texte dit « Alors Jonas se leva et alla à Ninive ». Et Dieu le ramène à nouveau là où il a besoin d'être. Sauf que Jonas, il a perdu du temps. Et parfois, par notre manière de voir les choses et de ne pas accepter ce que Dieu nous demande, on perd du temps. Et on fait des expériences quand même pas évidentes. Combien d'entre nous aimeraient faire un voyage dans le ventre du poisson ? Alors certes, il n'y a pas de risque de contact avec d'autres personnes, pas de problème de Covid. Vous êtes dans un état, je dirais, un peu de conservation. Non ? Pas besoin de mettre le masque. La baleine est vaccinée. Combien de fois, excusez-moi, nous-mêmes, on prend des décisions opposées à celles que Dieu nous donne ? Est-ce que la parole de Dieu, est-ce qu'on la considère dans sa totalité parole de Dieu ? Alors si elle nous dit une chose, je crois qu'on ne devrait pas faire l'opposé. Alors certes, on peut pointer du doigt Jonas. Mais comme disait quelqu'un, il disait bien, quand on pointe d'un doigt, il y en a plusieurs qui pointent dans notre direction. Et je crois qu'au lieu de juger, on devrait réfléchir, parce que qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette situation ? Premièrement, retour au point de départ. Jonas n'a pas passé l'examen, donc il recommence. Quel est le témoignage de Jonas face aux marins ? C'est pas peu. Et je dirais que ce qui est important, c'est que ce que nous vivons parle plus que ce que nous disons, n'est-ce pas ? Et il est question pour nous de faire preuve d'obéissance. Vous savez, il y a un texte dans la lettre aux Romains, au chapitre 2, les versets 17 à 24. Romains, chapitre 2, versets 17 à 24. Et ça pointe le doigt sur ce que nous, parfois, nous plaçons comme étiquette sur notre vie. Et une étiquette n'est pas véritablement ce que nous avons besoin. Regardez le texte. toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui est instruit par la loi, sait discerner ce qui est important, toi qui t'es persuadé d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des insensés, le maître des enfants, parce que tu as dans la loi la formule de la connaissance et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui as horreur des idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémer parmi les païens, ainsi qu'il est écrit. Qu'est-ce que ça veut dire ? On pourrait facilement dire autour de nous, mais moi je suis chrétien. Mais si la vie que je mène, si la manière, les choix que je fais, et les directions que je prends et les décisions que je mets en place dans ma vie ne sont pas dans le respect de Dieu, est-ce que je n'agis pas comme quelqu'un qui s'est mis juste une étiquette ? Un peu faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Alors j'ai trouvé cette prière qui se trouve en Hébreux chapitre 13, versets 20 et 21. Cette prière qui est écrite dans ce texte, Hébreux 13, versets 20 à 21, qui dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, donc notre Seigneur Jésus, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Avons-nous besoin de prier dans tel sens ? Parfois, il y a des personnes qui me disent, « Pasteur, voilà, il y a tel problème, priez pour moi. Que Dieu me donne une direction. » Moi, je me rappelle un jour, une sœur me dit, « Pasteur, priez pour moi, que Dieu me donne un nouveau logement. » Et j'ai demandé à Dieu, « Je veux un logement sans escalier. » J'ai besoin d'un logement comme ci, comme ça. Et elle m'a fait toute une liste. Et quelques semaines plus tard, elle me dit, « Voilà, pasteur, j'ai trouvé. » J'ai dit, « Ah bon ? Alors, dis-moi ce que tu as trouvé. » « Ah, j'ai trouvé une maison. Il y a 2 étages. » J'ai dit, « Je ne comprends pas. Pourquoi tu as pris une maison avec 2 étages alors que tu ne voulais pas d'escalier ?» Et en effet, elle est allée dans la direction contraire. Mais elle s'est embarquée et elle a quitté son ancien logement, elle a pris la nouvelle maison, elle est rentrée dans la maison 6 mois plus tard. « Pasteur, priez pour moi que Dieu me donne un nouveau logement. » Je dis « Attends, tu viens de déménager. Tu as demandé de l'aide, tout le monde est venu t'aider. » Je dis « C'est quoi le problème ?»« Ah, j'arrive plus à monter les escaliers. » Et j'arrive plus à chauffer la maison. Et il y a des fuites d'eau dans la toiture, et ceci, et cela. Je dis, tu vois, si tu t'étais tenu à la prière que tu avais faite et que tu avais foi pour attendre que Dieu te donne ce que tu avais besoin, pas plus, mais certainement aujourd'hui, tu n'aurais pas les problèmes que tu as au point de devoir à nouveau déménager. Ah, il me dit, oui, j'ai compris. Je dis, ok, refais-moi la liste de ce que tu veux demander au Seigneur. 15 jours plus tard, rebolote, elle était partie dans un autre truc. J'ai dit, là, moi, je ne viens pas t'aider à déménager. Ah, mais ce n'est pas gentil, frère. J'ai dit, ben écoute. J'ai dit, je suis sûr que dans 6 mois, on repart pour un autre déménagement. Laisse-moi m'économiser un peu le dos. J'ai dit, si toi, tu as choisi de partir dans la mauvaise direction, ne mets pas Dieu dans tes choix. Dieu m'a dit, et je suis parti dans telle direction. Moi, je me dis, faisons attention. Puisque quand Dieu dit quelque chose, il le fait toujours. Si ça ne va pas comme Dieu l'a décidé, c'est peut-être parce qu'on n'a pas écouté, nous, la voix de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu s'est trompé, il ne se trompera jamais. Et là, dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul dit à ceux qui se disent « vous vous dites, vous vous dites ». Vous savez, on peut dire beaucoup de choses. Mais la réalité, c'est que du moment qu'on ne va pas dans le sens de la, pas seulement de la loi, mais de la voix de Dieu, c'est qu'à partir de là, on peut devenir une cause de mauvais témoignages autour de nous, alors que Dieu nous garde. Alors je pense que la prière de la lettre aux Hébreux devrait nous faire réfléchir et dire, Seigneur, rends-nous aptes à tout ce qui est bien pour faire ta volonté. Et Seigneur, qu'il se fasse en nous ce qui est agréable par Jésus-Christ. Voulons-nous être agréables à Jésus-Christ ? Oui ? Voulez-vous être agréable à Jésus-Christ ? Alors on lui laisse le gouvernail. On va plus loin. Jonas, il dit le texte, se leva, il alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était devant Dieu une grande ville. En effet, pour la parcourir, il fallait 3 jours de marche. Et je trouve incroyable, incroyable ce qui va se passer. Alors, qui voudrait être Jonas ? Qui voudrait être Jonas ? Pourquoi non ? Non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui m'a interpellé. C'est que Jonas aimait Dieu. Jonas, il avait un problème avec les hommes, pas avec Dieu, à la base. Après, le problème s'est créé avec Dieu parce qu'il n'a pas obéi à Dieu. On est d'accord. Mais Dieu aurait pu choisir quelqu'un de beaucoup plus doux. Dieu aurait pu choisir quelqu'un de beaucoup plus obéissant. Y a-t-il des candidats ? Non ! Alors vous voyez, on est tous un peu Jonas. Non ? Jonas, il ne comprend pas le projet de Dieu. Et pourtant, Dieu a un projet. Regardez, c'est merveilleux. Jonas, il va, il commence à faire dans la ville ce message. Et en une journée, alors qu'il fallait 3 journées pour parcourir la ville, une journée a suffi pour que les gens de la ville soient interpellés et qu'en réalité, ils commencent à mettre en apte toute une démarche de repentance devant Dieu. Le projet de Dieu, excusez-moi, n'a pas changé pour plaire à Jonas. Le message de Dieu n'a pas changé pour satisfaire Jonas. Ce qu'il lui a demandé au premier chapitre, il lui a redit au 3e chapitre. La stratégie de Dieu n'a pas changé pour simplifier la tâche de Jonas. Jonas aurait pu se dire, mais Seigneur, 3 jours de marche, c'est beaucoup pour mes petits pieds. Et nous, parfois, on cherche des excuses pour faire ce que Dieu nous demande, mais quand Dieu a un projet, ça marche. Et là, en une journée, regardez ce qui se produit, c'est que la ville commence à se remettre en question. Il y a un changement, il y a une transformation, il y a une métamorphose parce que ce qui était important n'était pas Jonas. C'était l'œuvre que Dieu voulait accomplir. Je crois que parfois, nous, on se sent les garants de ce que Dieu nous demande de faire, alors qu'on doit juste se comporter autant qu'instrument entre les mains de Dieu. Qu'est-ce qui a changé le cœur des hommes de la ville de Ninive ? Jonas ? Ou le message que Jonas a porté ? Et le message de Jonas, c'était le message que Jonas avait préparé pendant qu'il était dans le ventre du poisson ? Ça y est, il a pris des notes. Ou est-ce que c'est ce que Dieu lui a dit de dire ? Alors vous savez, quelle qu'il soit la situation, les circonstances, les conditions, l'endroit, la langue que Dieu vous demande de faire quelque chose, faites-le parce que ça marche quand c'est Dieu. N'ayons pas peur, ne soyons pas dans la crainte de dire « Mais Seigneur, peut-être ça ne marchera pas. » Peut-être. Mais moi, je crois qu'il y a plus de possibilités que ça marche quand c'est le Seigneur que quand c'est nous. Et d'ailleurs, la preuve, on est là. Il est question pour nous de retenir la bonté, la miséricorde de Dieu. Jonas a dû se résoudre à obéir à Dieu. Et il l'a fait, très bien. Choisi et prévu, mais il y a question de changement de nature et de caractère qui s'impose. Dieu nous accepte comme nous sommes, mais est-ce que nous acceptons d'être comme lui ? Il nous veut. Jonas, il va devoir se résoudre à obéir à Dieu. Alors, je ne sais pas comment vous l'imaginez, Jonas. Je ne sais pas si on peut comparer Jonas à un ado. Quand vous lui demandez de faire quelque chose et il n'a pas trop envie. Tu peux aller faire ça ? Oui. Et il porte le poids du monde. Vous le sentez qu'il est là, il est en train de creuser un sillon avec ses pieds pour avancer. Comme nous, parfois, on peut le faire quand Dieu nous demande quelque chose et que ça nous coûte parce que ce n'est pas ce que nous, on veut. Et pourtant, c'est ce que Dieu a prévu. Et la preuve, c'est qu'au bout d'une journée, quand on voit le résultat, moi, je crois que Jonas aurait dû se réjouir. Non ? Une grande ville. Posez la question à un évangéliste. Il vous dira, moi, j'aurais aimé avoir l'occasion que Jonas a eue de pouvoir évangéliser comme ça. Qui voudrait cette possibilité ? Ah, d'un coup, vous voulez tous être Jonas. Comme ça change d'un coup. C'est le résultat qui nous conduit à changer d'idée, non ? Mais à la base, peut-être que nous aussi, on aurait des choses à dire. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Il nous amène dans cette réflexion du changement qui est nécessaire dans notre vie. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 10. Parce que tant qu'il n'y a pas de transformation dans notre pensée, quoi que Dieu nous dise, on aura du mal à le mettre en pratique. D'ailleurs, je vous rappelle que la conversion, le mot, c'est métanoïa, nouvelle pensée. Il faut qu'à un certain moment, il y ait une transformation dans notre vie et le texte de Éphésiens nous éclaire un peu plus en nous disant « Pour vous, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, donc Satan, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ah Seigneur, j'ai fait ceci. Ah Seigneur, j'ai fait cela. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Cette transformation de mentalité doit nous amener à non plus chercher ce qui nous plaît, mais ce qui plaît à Dieu. Ça doit nous amener à abandonner nos vieux réflexes de notre manière de décider. Comment prenez-vous vos décisions ? Vous vous rappelez, quand on était enfant, on jouait à un jeu avec la bouteille, hein ? Ou les pétales, les fleurs. On prenait des décisions un peu comme ça, non ? Et combien aujourd'hui fonctionne encore comme ça ? Si demain il fait beau, je fais ceci. Vous l'avez déjà fait ou pas ? Si demain est comme ça, je fais cela. Et c'est un peu un jeu d'hasard. Mais avec Dieu, il n'y a pas de jeu d'hasard. Et les questions pour nous d'accepter, puisque nous sommes morts en Christ et ressuscités en Christ, non plus de réfléchir selon le monde et selon l'esprit de ce monde, puisqu'il nous a appelés à être assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça veut dire qu'il est question pour nous d'élever notre pensée vers Dieu et de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Comment tu veux que je fasse ?» D'ailleurs, si vous regardez Jésus, quand il était dans son ministère ici sur terre, il passait beaucoup de temps dans la prière, non ? Et il dira « Je ne fais rien que le Père ne me l'ait dit ou me l'ait montré. » C'est magnifique. Et si c'était valable pour Jésus, est-ce que ce n'est pas valable pour nous ? Donc, cet changement, cette transformation de pensée est celle qui doit aussi agir dans notre vie. Qu'est-ce qu'est véritablement croire ? Dans le livre, nous avons vu, dans le troisième chapitre de Jonas, nous avons lu que les gens de Ninive crurent en Dieu et ils se sont dit « Ok, je crois en Dieu ». Où est-ce qu'ils sont allés plus loin dans leur démarche ? Vous savez, si vous sortez, vous rencontrez quelqu'un, ou vous allez même en prison visiter quelqu'un. Allez, moi ça m'est arrivé. Vous allez dans une prison et vous visitez les prisonniers. Est-ce que vous croyez en Dieu ? Ah ben oui. Ah ben oui, je crois en Dieu. J'étais même baptisé, enfant. Ah oui, regardez, j'ai le pendentif. Mais une chose, c'est croire. Une chose, c'est suivre. Je peux croire en Dieu, mais si je n'apporte pas dans ma vie une véritable transformation au point de mettre Dieu au centre de ma vie, ça ne change rien. Et pour Ninive, si les gens avaient tout simplement dit « Ben, on croit que Dieu existe », est-ce que ça aurait changé quelque chose sur ce que Dieu avait décidé de faire pour Ninive ? Non. Parce que si le fait de croire n'est pas suivi d'une véritable repentance telle que nous la lisons ici, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont proclamé un jeûne, ils ont voulu s'humilier devant Dieu. Et cet acte a fait que ça s'est reproduit comme un effet avalanche, puisque le roi lui-même, il a entendu que. Et qu'est-ce qu'il va faire de son autorité ? Il va dire maintenant toute la ville. Pas seulement les êtres humains, mais même les animaux, que chacun puisse crier à Dieu, que Dieu ait pitié de nous. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé, parce qu'ils reconnaissent que les hommes et les bêtes soient couverts de ça, qu'ils crient à Dieu avec force et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée aux pommes de ses mains. Est-ce que nos mains sont propres ? Il y a quelques années de cela, alors que je travaillais en Suisse, il est arrivé qu'il y a eu un problème de quelqu'un qui volait dans l'entreprise. Et les vols étaient répétés. C'était des cartons de poissons qui coûtaient un certain prix. D'accord ? Et comment arriver à comprendre qui était le voleur ? Et un jour, ils ont vu les cartons qui étaient stockés à l'extérieur, avec des cartons aussi de viande, il y en avait pour une certaine somme. Et au lieu de tout enlever, ils ont fait venir la police. Et la police est arrivée en cachette et a mis un produit sur les cartons. Et donc, ils ont laissé les choses comme ça, comme ils étaient cachés. Et le jour d'après, au moment où c'était la pause, ils ont rassemblé tout le personnel de l'entreprise. Ils ont dit « Maintenant, vous venez tous, on a besoin de vous voir au moment de la pause. » Et au moment de la pause, la police est arrivée. Cette fois-ci, ils n'étaient plus habillés en civil. Ils étaient là avec tout ce qu'il faut, d'accord ? Et ils avaient une petite lumière. Et ils ont demandé à tous les ouvriers de tourner les mains. Et ceux qui avaient touché les cartons après que le produit avait été mis dessus, les mains devenaient noires. Et les voleurs ont été interpellés à l'instant même. Quand la parole de Dieu, il nous parle des mains entachées. Vous savez, tant qu'on regardait les mains comme ça, on ne savait pas qui avait volé. Et peut-être qu'autour de nous, on ne donne pas l'image de quelqu'un qui fait des mauvaises choses. Peut-être qu'on a même une très bonne image, bonne presse autour de nous. Hein, on nous donnerait... Voilà. Moi, je l'ai pensé, Dominique l'a dit. Tu peux le répéter à haute voix, s'il te plaît ? Voilà. Sauf que, au moment où les choses sont mises à la lumière, non pas la lumière des hommes, mais la lumière de Dieu, ce qui entache nos mains ressort. Et là, excusez-moi, il n'y a plus d'excuses possibles de dire « Ah, mais ce n'était pas moi. Ah non, non, non. Ah non. Ah non, tu ne peux pas dire que ce n'est pas toi. Alors regarde, tes mains témoignent contre toi. Et vous savez, notre péché témoigne contre nous. Et ce que la parole de Dieu nous dit, c'est qu'en réalité, ces hommes ont pris conscience de leur péché et il a fallu demander pardon à Dieu parce qu'il n'y a que Dieu qui peut purifier nos mains. Et on a beau penser que personne ne verra rien, il y aura un moment où notre péché sera manifesté à tout le monde. Et si ce n'est pas ici-bas, ça sera dans le ciel, devant Dieu, parce qu'on va être jugé à cause de nos péchés. Jésus dira, « Je suis venu dans le monde et ils ont refusé la lumière. » Quand est-ce qu'on a peur de la lumière ? Quand on vit dans des situations où on ne veut pas que les autres les voient, quand on n'a pas peur, ben on n'a pas crainte de la lumière, non ? On sort sur notre balcon et on est là et on est heureux parce qu'on se dit, voilà, je peux utiliser, je peux me servir de ci, je peux même aller cuire mon poisson. Je n'ai pas peur que quelqu'un me dise, tu ne l'as pas payé, tu l'as volé. Mais quand c'est quelque chose qui a été acquis de manière injuste, est-ce qu'on vit avec la même tranquillité ? Est-ce qu'on agit de la même manière ? Alors vous voyez, le simple fait de dire, je connais Dieu, ne suffit pas. Il est question d'une véritable repentance dans laquelle nous exprimons devant Dieu nos erreurs, nos fautes. Et regardez ce qu'il dit. Et ça, c'est incroyable. Il dit, qui sait ? Si Dieu ne reviendra pas et n'aura pas de regrets, et s'il ne reviendra pas de son ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas. Alors j'ai mis cela dans mes notes. Attention à ne pas considérer pour acquis le pardon sans nous assurer de l'avoir obtenu. Nous, on donne parfois, c'est logique, je dis pardon et c'est fini. Mais est-ce qu'on a obtenu le pardon ? Vous savez, Dieu sait sonder les cœurs. Si notre demande de pardon elle est réelle, certes, on va obtenir pardon. Mais on ne peut pas se manquer de Dieu. Deuxième chose, la repentance n'est pas un mythe et encore moins une démarche administrative. Ah, vous savez, on est des champions de l'administratif. S'humilier ne consiste pas à faire semblant devant Dieu ou devant les hommes. Il est question de revenir de nos mauvaises erreurs qui sont restées attachées à nos mains, telle une marque de nos fautes. Vous vous rappelez la prédication de Jean-Baptiste ? Luc chapitre 3, versets 7 à 9. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, parce qu'il avait certainement une prédication qui devait attirer les foules. Et il avait les mots pour attirer les foules. « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cogne est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, est coupé et jeté au feu. » Jean est en train d'annoncer que ce n'est pas la question de dire « je connais Dieu » et même se faire, entre guillemets, baptiser. Non. S'il n'y a pas une véritable repentance avec un fruit, une repentance qui produit quelque chose, qui est visible, qui est tangible. Et quand on parle d'un fruit, il est question d'un fruit qui a un aspect digne pour être offert à Dieu. Ce n'est pas, vous savez, ces fruits qu'on regarde, combien de fois ça peut arriver, vous êtes au supermarché, vous regardez des fruits, vous dites « qu'est-ce que c'est beau !» Et vous arrivez à la maison, vous le coupez en deux, vous dites « qu'est-ce que c'est pourri ?» Non ? Est-ce que vous offrirez quelque chose comme ça à Dieu ? Juste une façade ? Non, il est question pour nous d'offrir à Dieu un fruit qui est digne de celui à qui on l'offre. Il est question de taille, qui prouve qu'il y a eu un développement. C'est vrai que maintenant, c'est la mode des petits fruits. Non ? Mais quand vous avez faim, qu'est-ce que vous choisissez ? Le petit fruit ou la bonne pastèque ? Dites-moi, quand j'ai fini, j'ai fini. Et les questions de goût qui attestent aussi de la maturité qui a été rejointe. Un fruit qui n'est pas mûr, ça veut dire qu'il a manqué de quelque chose. Est-ce que notre repentance, est-ce qu'elle apporte, elle laisse un goût qui est bon à ceux qui viennent goûter à notre vie, ou est-ce que ça donne un goût amer de dire c'est pas bon encore, c'est trop tôt. Il aurait fallu laisser encore un peu, il fallait qu'il médite encore, qu'il réfléchisse. Et l'apôtre et Jean, il prêche en effet, en rappelant qu'il est question pour nous d'offrir à Dieu une repentance réelle. Alors Dieu soit béni parce que Dieu est capable de lire dans les cœurs. Amen. Et le texte nous dit, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. L'intervention de Jonas nous est rapportée dans les premiers versets de ce texte. Après, Jonas est mis de côté, c'est entre ceux qui ont entendu le message et Dieu. Et je crois que ça doit nous soulager de dire, Seigneur, du moment que je fais ce que tu me demandes, c'est plus à moi après d'assurer le résultat final. Parce que vous savez, nous souvent on considère qu'on est jugé sur le résultat. Non, on est jugé sur l'obéissance. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire ? Dieu va faire preuve de miséricorde. On termine par ce texte de la lettre aux Hébreux au chapitre 4, versets 14 à 16, qui dit « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, c'est de Jésus qui parle, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Mais il a été tenté comme nous, à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. » Ce n'est pas nous qui allons choisir la manière où Dieu va nous secourir. Il est question pour nous d'obtenir miséricorde, grâce et un secours opportun. La manière où Dieu va nous secourir, c'est à lui de le décider. Le pardon, il n'y a que lui qui puisse nous le donner et faire preuve de miséricorde envers nous. Et encore une fois, la grâce, il n'y a que lui qui peut la donner. On ne peut pas se l'approprier en disant « Ah, mais moi, je prends la grâce. J'ai choisi la grâce et je mets sous la grâce tout ce que je fais. » C'est trop facile. Vous savez, la grâce, ce n'est pas comme le sel qu'on met dans toutes les... ou les condiments que vous mettez dans les salades. Non, la grâce a une valeur. Et cette grâce, elle nous est accordée en vertu du sacrifice de Christ. Alors si toute cette ville s'est tournée vers Dieu, c'est parce que la volonté de Dieu, elle est déclarée, elle est claire. Il veut le salut des hommes. Mais pas n'importe comment et pas n'importe quel prix. Il est question de revenir à Dieu avec un cœur repentant, véritable. Et ce n'est pas parce qu'on est devenu parfait que Dieu nous accepte. Parce qu'alors, moi, j'attendrai encore longtemps. Non, vous pas. Vous pas. Mais moi, oui. C'est là la grâce. C'est parce que Dieu accepte des êtres imparfaits. Lui qui est parfait. Pour nous transformer, pour nous changer, pour nous aider, pour nous secourir. Qui a besoin encore ce soir ? De dire « Seigneur, viens me secourir. Seigneur, viens m'aider. » Alors on va incliner nos têtes et nous allons prier quelques instants ensemble. Seigneur, chacun de nous, dans notre cœur, nous voulons, Seigneur, agir avec sagesse. Et te dire « Seigneur, donne-nous, Seigneur, encore une occasion. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Jusque-là, nous avons mal agi, mais s'il te plaît, Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, tu as fait grâce à cette ville de Ninive que pouvait être considérée indigne du message que tu lui donnais. Mais Seigneur, ton amour nous montre, Seigneur, que tu uses de grâce à l'infini. Seigneur, et tu donnes possibilité à tout homme, à toute femme, Seigneur, de s'approcher de toi Et puisqu'ils ont fait, Seigneur, ils ont agi avec sagesse, ils ont su, Seigneur, venir à tes pieds. Seigneur, tu as pardonné. De la même manière, encore aujourd'hui, nous venons à tes pieds. Nous te disons, Seigneur, donne-nous sagesse. Seigneur, et là, nous avons commis des erreurs, là où nous avons, Seigneur, pas accepté tout de suite ta volonté, Seigneur. Là où nous avons pris mauvaise direction, Seigneur, ramène-nous, s'il te plaît. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, fais encore preuve de miséricorde envers nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour le sacrifice de Christ, lui qui est notre souverain sacrificateur. Lui par qui, Seigneur, encore aujourd'hui, nous pouvons te dire, Seigneur, pardonne-nous. C'est en vertu de son sacrifice que nous avons accès à la grâce. Ce n'est pas par la loi, Seigneur, car la loi nous condamne, mais la grâce nous justifie. Seigneur, et le sang de Christ nous purifie. Seigneur, à toi et à toi seul soit toute la gloire au siècle des siècles.